Moi, juste une remarque sur la correction, parce que ça fait partie des dernières choses que Claudine vient de dire. J'ai distribué à ceux qui étaient là, je viens de réaliser que je vais devoir faire la même chose avec ceux qui viennent d'arriver aujourd'hui, un compte-rendu de lecture d'un ouvrage écrit par un universitaire américain sur l'écriture. Et il dit des choses que je n'ai jamais lues en didactique par des auteurs français, puisqu'il dit non seulement qu'on ne corrige pas tout, quand on fait beaucoup écrire les élèves, non seulement on ne corrige pas tout, mais lui dit « et on ne lit même pas tout ». Et c'est une position un peu paradoxale, mais je trouve que assez cohérente et assez défendable. Il faut faire écrire beaucoup, beaucoup. Et donc il dit « on ne lit, on ne corrige pas tout ». Quand il dit « on ne corrige pas tout », il dit qu'on peut corriger certains groupes d'élèves, et pas tous, certains élèves, et pas les autres, ça dépend du moment, ça dépend de la période, certains types de difficultés, certains fragments du texte, et même on peut ne pas tout lire dans ce que vient de produire une classe quand elle produit effectivement beaucoup au jour le jour. Alors c'est une position sans doute excessive et je pense peu défendable dans l'institution actuellement, mais c'est peut-être une orientation que je crois assez... En tout cas, il vaut mieux faire beaucoup écrire et ne pas tout lire plutôt que le contraire. Plutôt que tout lire des trois lignes hebdomadaires.
Est-ce qu'il y a oui, c'est la question aussi de la culture anglo-saxonne sur la question. Hein. Alors, il y a deux demandes, je crois.
Non, je réagis sur ce que tu viens de dire, François, parce qu'on vient d'une situation, enfin, quand on regarde l'histoire de la correction, on vient sur une situation où, justement, on ne lisait pas et on ne corrigeait pas tous les devoirs d'élèves. Au début, c'est quelque chose de relativement, enfin, récent. Enfin, en tout cas, des préconisations qui sont intervenues dans les années 20, 30, de par les instructions officielles. Mais au départ, effectivement, il y avait des situations où on ne lisait pas tous les devoirs d'élèves. On lisait ce qui en valait la peine à l'époque. Alors, peut-être que... Alors, ce qui en valait la peine, c'était les bons, hein. C'était les bons. Alors peut-être qu'aujourd'hui, on peut effectivement retrouver des pratiques ou des attitudes de ce genre, mais en ne lisant pas forcément les bons. Voilà. Sur la correction, je continue sur la correction, parce que ce qu'on vient de voir, là, l'exemple, ce sont des expériences que j'ai faites aussi, sur les réécritures par les enseignants de textes d'élèves ou sur les corrections. Et comment je ne suis pas aussi optimiste que Claudine, c'est-à-dire que les réécritures ne sont pas forcément, je veux dire, des lieux d'investissement personnel. Je crois que, enfin, j'ai fait un certain nombre de constats qui montrent que les réécritures sont quelquefois une façon d'hypernormer les textes d'élèves, si on peut dire, et de construire, enfin, de reconstruire une sorte de texte idéal scolaire. Mais ces réécritures sont particulièrement intéressantes à mon sens parce que elles sont le lieu d'expression de la conception implicite du texte qu'ont un certain nombre d'enseignants. Alors sans doute pas les gens qui ont travaillé, qui se sont appropriés un certain nombre de choses qui viennent d'être dites ici, mais je parle de l'enseignant lambda, on va dire.
Et c'est des enseignants lambda qui sont dans des stages de formation continue second degré, des gens dont...
Oui, enfin, moi j'ai travaillé avec des PLC2 lettres en formation et puis avec des professeurs de lettres généralement de collège. En situation de stage de formation continue.
Donc ils sont déjà volontaires sur un stage qui porte sur l'écriture?
Pas forcément, c'est quelquefois des pratiques de formation un peu détournées aussi.
En fait, je voulais justement revenir sur cette question de correction, mais ça a été largement fait. En même temps, je pense que c'est vraiment un point important parce que c'est très gênant, enfin je le fais tout le temps, avec les PE2 ou avec l'équipe de travail avec lesquelles je travaille, enfin l'équipe de recherche sur l'écriture, de dire que eh ben, si on veut faire écrire, il faut pas tout relire et tout corriger, et on peut planquer le cahier dans la classe, et puis personne ne verra d'autre que les élèves et les profs. Et le prof. Mais par rapport à l'institution, bien entendu, c'est un peu gênant. Mais c'est à ce prix-là qu'on fera écrire les enfants. Bon, j'y reviens pas. En entendant tes propositions d'écriture, ça fait pas mal de temps que je pense à un exercice que j'ai jamais vu pratiquer parce que je suis arrivée trop tard à l'UFM, mais qui était la reconstitution de texte.
Non, les écoles normales à l'époque. C'était pas les UFM.
Bah oui, mais je suis arrivée trop tard. Moi, je suis arrivée à l'UFM justement. Donc, j'ai jamais vu pratiquer. Et en même temps, ça me semble, il me semble que finalement, il y a des choses intéressantes derrière ça. On réinvente ça quand tu parles de
La reconstitution de texte, moi, c'est pareil, j'étais un peu trop petite pour le voir. Mais, si j'ai bien compris, c'est une activité qui consistait à faire mémoriser aux élèves un extrait de texte choisi pour ses caractéristiques syntaxiques. Donc, à l'arrivée, on devait retrouver le texte de l'auteur. Alors, effectivement, non?
Oui, mais du coup, on l'intégrait quand même. Mais du coup, on l'intégrait.
Je ne sais pas, il y en a peut-être qui connaissent mieux l'exercice que moi, qui n'ai lu que dans les livres, qui l'ont vu pratiquer.
Hein?
Oui,
Moi, je l'ai vécu en tant qu'enseignante débutante, donc ça veut dire que je suis encore moins petite que vous. Et j'en garde un très très bon souvenir en termes d'appropriation de structure par les élèves. Et j'ai regretté, parce que mon histoire personnelle fait que j'ai été un petit peu en dehors de l'enseignement dans le premier degré pendant plus d'une dizaine d'années. Et quand j'y suis revenue en tant que formatrice à l'UFM, il y a eu comme des trous. Je me dis, mais qu'est devenu cet excellent exercice que j'ai pratiqué à mes débuts sur les conseils de mes enseignants de l'école normale de Chartres et entre autres, oui, surtout. Et j'étais comme déçue et j'ai trouvé qu'il n'y avait plus trop la place de cet exercice et j'en discutais encore récemment avec un maître formateur ardéchois qui a participé aux travaux du groupe EVA, donc Jean Cardot, si vous voyez qui c'est. Et on était tous les deux en train de faire un petit numéro de nostalgie, un peu douteuse d'ailleurs, sur ces reconstitutions de textes. Et donc, pour ceux qui n'ont pas connu cette époque lointaine, l'exercice consistait de faire disparaître petit à petit des morceaux d'un texte d'auteur qui était au tableau, et de le faire retrouver à chaque fois. Et donc, c'est dans la répétition des structures que les élèves s'appropriaient les dites structures. Et moi, je me souviens les avoir retrouvées après dans les productions écrites des élèves. À l'époque, on n'appelait pas ça des productions écrites, mais bon, c'était quand même ça.
Il faut dire que le texte pouvait être choisi pour des raisons
syntaxiques,
lexicales...
Oui, c'était tous ces critères-là qui étaient... conjuguer, si vous m'autorisez l'utilisation de ce verbe. Mais on avait bien, moi je me souviens, j'avais des textes fétiches, un petit extrait de Pagnol que j'aimais bien chaque année retrouver. Et je voyais cette appropriation des structures. Et moi, c'est vrai que je l'utilisais en tant que modèle syntaxique, ça c'est sûr. Voilà.
Mais comme je l'ai, je le garde. Non, mais pas longtemps du tout. C'était juste, je suis pas. Non, mais je le rends tout de suite. C'était un troisième point dernier. J'étais intéressée évidemment par les propositions d'écriture que tu faisais. L'histoire de travailler sur le lexique des verbes, sur les parodies, pillages, anthologie de texte, etc. Ça m'a rappelé quelqu'un que j'avais lu il n'y a pas très très longtemps aussi. Enfin, on retrouve des exercices qui ont été proposés depuis pas mal de temps, évidemment, dans des choses qu'on a déjà lues, quoi. Mais comme je ne suis pas gardienne d'un héritage, j'en parlerai pas plus. Mais voilà.
Pour la petite histoire, j'ai rencontré il y a 2 ou 3 ans Jean-Pierre Kerloc, qui était l'auteur de l'ouvrage sur la reconstitution de texte dans un colloque où il était là tout à fait en il est à la retraite et il était vraiment et on a évoqué aussi avec nostalgie la reconstitution de texte. Il m'a dit oui, il faudrait bien le rééditer ce bouquin, mais j'ai l'impression que la retraite l'entraînait vers tout à fait autre chose. Et
moi, je voulais parler aussi de l'évaluation, mais puisqu'on en est au quart d'heure nostalgie, à un moment donné quand vous parliez, ça me faisait furieusement penser aux exercices structuraux. On travaille sur la syntaxe. Mais bon, peut-être suis-je trompée, hein, où on travaillait sur des structures de langue il y a très longtemps. Mais, mais ma remarque, c'est sur l'évaluation, et je vais avoir peut-être une tonalité un peu différente. Il me semble qu'on ne peut pas donner le même statut à tous les écrits en ce qui concerne l'évaluation. C'est-à-dire qu'on va avoir des écrits intermédiaires, des écrits pour soi, des écrits pour penser. Et je trouve qu'en science, etc., il y a vraiment eu des avancées, avec notamment le carnet d'expérience. Il y a des choix qu'on peut expliquer aux parents. Par contre, il y a des écrits finalisés. Et puis, il y a aussi parfois des écrits dans les classes où ça se pratique. Il faut pas non plus... il faut avoir les yeux grands ouverts, hein, le cahier du jour. Eh bien, je pense qu'on ne peut pas dire à des jeunes, vous corrigez pas, parce que c'est les envoyer droit dans le mur vis-à-vis des familles. Enfin, ça, c'est mon expérience personnelle de conseillère PEDA. Les parents, pour un certain nombre d'entre eux, aujourd'hui, il y a une défiance par rapport à l'école. Il y a aussi le seul point sur lequel ils peuvent, entre guillemets, se rattracher, c'est l'orthographe. Or, faire aller dans les familles des cahiers qui sont marbrés de faute d'orthographe, je suis désolée, mais c'est conduire de la suspicion par rapport à l'école et ce qui s'y fait. Et donc, il me semble que c'est en fonction des écrits, en fonction aussi des supports, qu'on peut s'arroger le droit de corriger, de pas corriger. Et c'est ça plutôt qu'il faut expliquer aux étudiants.
Alors, moi, je suis complètement d'accord avec ça. Effectivement, c'est-à-dire que notamment en montrant le statut différent des écrits, ça, c'est une question. Enfin, moi, j'ai pas mal travaillé aussi sur l'écriture tâtonnée. Dans l'articulation grande section CP, évidemment, il faut montrer aux parents que les écrits ont des statuts différents et qu'il y a des écrits qui sont des traces intermédiaires et qu'il y a des écrits qui vont être des écrits de référence et que ceux-là, l'orthographe doit être normée. Ça, je suis totalement d'accord avec votre analyse. Et si j'ai laissé penser que je pensais pas ça, hein, et je fais partie d'ailleurs des vieux, enfin des gens très exigeants sur la qualité orthographique de toute production, c'est-à-dire que dès qu'il y a un élément, y compris dans une préparation qui est défaillant, je le pointe comme zone de fragilité. Ça, c'est important. Deuxièmement, sur le fait qu'on revienne au passé. Et qu'on retrouve des choses du passé. Bon, évidemment, moi, je crois qu'après, il y a des mouvements de balancier. Bon, moi, alors, quand la recherche INRP, la première s'est mise en place, la situation, c'était qu'il n'y avait pas d'écriture dans les classes. Il n'y avait pas... C'était ça, le départ. Ce n'était pas évaluer les écrits, c'était qu'il n'y avait pas d'écriture dans les classes. On avait fait des observations de classe, on avait repéré que les élèves étaient très souvent en position de faire des exercices, mais jamais d'écrire. Ça, c'est les débuts des années... 80, hein, donc c'était ça le constat. Donc la recherche, elle avait d'abord pour but de remettre en place des activités d'écriture en classe. Bon, après elle a dérivé, elle s'est focalisée sur la question des critères. Au départ, c'était bien un constat qu'il n'y avait pas d'écriture dans les classes. Évidemment qu'il y a des effets de balancier, c'est-à-dire il n'y avait pas d'écriture dans les classes. Du coup, il y avait une réflexion à la fois sur pourquoi on écrit, pour qui on écrit, donc sur ce qui relève de la planification. Du coup, on ne s'est pas beaucoup attaché aux formulations. Si vous regardez dans évaluer les écrits à l'école primaire, il y a 2-3 fiches sur l'évaluation. Bon. Ensuite, il y a l'arrivée, parce qu'aussi il y a les effets sociaux, hein, de pression sociale, d'attente, etc. Il y a les pratiques d'enseignement telles qu'elles se vivent. Et puis, il y a l'importation dans le champ de la didactique de travaux en cours. Dans cette période-là, il y a la diffusion du travail sur les brouillons d'écrivains. Il y a la réhabilitation de la trace de l'écrit intermédiaire. Et donc, il y a une grosse focalisation sur la révision. Mais la révision, encore une fois, pas forcément sur la dimension formulation dans toute cette période. Et puis, dans cette période, il y a aussi l'arrivée de la grammaire de phrase. Et du coup, on a des effets de balancier dans les formations dont on est en partie responsable, mais qu'en partie. C'est-à-dire, quand vous faites un travail sur, les procédés de reprise, prenons ça, c'est vraiment le standard, parce que vous pensez que les gens-là n'ont pas travaillé là-dessus. Du coup, il y en a qui croient que la morphologie verbale, c'est plus à la mode, il faut plus le faire. Moi, je me rappelle, il y a 7-8 ans, quand je suis arrivée à Toulouse, Dans les premiers modules avec les maîtres formateurs, je leur ai dit, moi, je voudrais... Alors, ils m'ont proposé des trucs sur les classements par genre, type d'écrit, etc. Bon, je dis, non, moi, je voudrais, là, quelque chose vraiment sur la relation sujet-verbe. Ils me regardaient avec des yeux ronds. Alors, là, celle-là, maintenant, à l'école, à l'UFM, voilà, maintenant... Parce que eux, ils avaient pris le virage de la grammaire de texte et ils croyaient, du coup, que... Alors, bon, je pense à la morphologie, ils la faisaient souterrainement. Mais bon, c'était pas ça qu'il fallait montrer aux profs d'UFM. Idem avec les stagiaires, qui à un moment donné pensaient que toute activité de grammaire devait se faire sur des textes et que c'était ça la doxa. Donc il y a des effets de doxa dont on n'est qu'en partie responsable, parce qu'aussi quand on parle aux enseignants, quand on fait une séance de formation, moi les procédés de reprise je le fais plus là. Moi, je ne le fais plus. Je considère que ça se fait trop. Mais du coup, il y a un effet. Enfin, il y a des effets de balancier. Donc, c'est normal qu'on retrouve du passé. Alors ensuite, moi, je crois quand même que les raisons pour moi, par rapport aux exercices structuraux, non, je crois que ça ressemble pas du tout aux exercices structuraux, parce que les exercices structuraux consistaient, si j'ai bien lu mon jeune ouvrier Gruet, qui était la Bible quand j'ai démarré comme prof d'école normale dans les années 80. Il y avait l'idée qu'il y avait des structures de phrases, qu'on les travaillait, qu'on s'entraînait à les utiliser, d'abord à l'oral, puis à l'écrit. Bon, là, il me semble qu'on a une autre... Déjà, sur les rapports oral-écrit, par rapport à jeune ouvrier Gruet, on a fait quand même aussi du chemin. Hein. Et donc, l'idée, là, c'est de... Alors, et il y avait une solution... Il n'y avait pas forcément autant de solutions que de subjectivité d'élèves dans la classe. Dans le travail là, d'imitation et de reprise, des solutions, il y en a autant que de subjectivité. Après, il y en a qui sont possibles grammaticalement, d'autres qui ne le sont pas. Donc, je crois que, alors, d'une part, je crois qu'il faut qu'on ait l'histoire. Alors, nous et les enseignants. C'est-à-dire que là, ce que tu as dit, Jean-Luc, sur le fait qu'en 1920, on ne corrigeait pas tous les devoirs, je trouve que c'est drôlement intéressant de voir que ce qui est de l'ordre d'une évidence, quand on parle des pratiques traditionnelles, n'est qu'un artefact de l'histoire à un moment donné. Et par exemple, moi, j'ai travaillé en PLC2 quand je faisais le cours sur le... En PLC1, en prépa concours. Quand je faisais le cours sur l'écriture, je prenais l'extrait de Proust, des Jeunes filles en fleurs, où un personnage raconte à l'autre sa correction de disserte. Et là, il y avait eu un article, alors je ne sais plus de qui resituait ça dans l'histoire. Enfin, je veux dire, à l'époque, les filles écrivaient certaines choses. Là, on avait un modèle de correction qui avait été intégré par Proust, pas à des fins didactiques, hein, mais qui était très caractéristique de cette époque-là. Mais je trouve qu'à un certain moment, faire un pas de côté pour regarder comment c'était fait, ou pourquoi on l'a fait, ou... Bon, voilà, évidemment, hein, sous l'Ancien Régime, avec des classes à 100 et pas de stylos et de crayons, on n'écrit pas, voilà. Et donc, il y a des choses qui sont de l'ordre de l'évidence pour nous, qui ne le sont pas. De la même manière, les cultures, tu as parlé de la culture anglo-saxonne, alors il faut savoir, en Angleterre, ils reviennent à de la grammaire explicite. Aux États-Unis, on écrit d'abord beaucoup, hein, on écrit beaucoup dans une attitude qui n'est pas normative du tout par rapport à la langue, mais en même temps la langue a un autre système, hein, mais en tout cas voir que ça, et voir que mon PE2 qui est parti en Chine l'an dernier et qui a demandé aux élèves de faire un dessin, et les élèves sont bloqués parce que faire un dessin libre en Chine, ben ça se fait pas, hein, et puis finalement sur incitation de l'enseignant, ils reproduisent le truc de broderie qui est sur le truc qu'on vend aux touristes à l'endroit où ils sont. Ben voilà, donc nous, il y a des choses qui sont des évidences dans notre système qui n'en sont pas dans d'autres. Et du coup, elles questionnent. Et qu'on ait un retour, une mémoire de certains exercices scolaires en se disant pourquoi on les fait, c'est important, mais c'est pas forcément le même. Je prends les activités phonologiques à l'école maternelle. Les raisons pour lesquelles on les fait aujourd'hui me paraissent pas du tout les mêmes que les raisons pour lesquelles on faisait peut-être exactement les mêmes choses il y a 30 ans. Parce qu'entre-temps, on sait d'autres choses. Donc du coup, c'est pas être rétrograde, c'est avoir une mémoire de l'institution, savoir que l'institution est une institution, c'est-à-dire qu'elle codifie des choses, mais qu'elle est aussi la résultante d'influence, de pression, remettre à leur place les éléments. Et demain, je vous montrerai comment, à travers la notion de modèle disciplinaire en acte des enseignants, j'essaie aussi de retrouver l'histoire, parce que il y a le système que les gens ont connu comme élèves, le système qu'on leur a enseigné en formation initiale, la culture professionnelle de leurs collègues. Tout ça n'est pas forcément en convergence. et les prescriptions des programmes du moment et les prescriptions secondaires de l'équipe de circonscription, des formateurs UFM, etc. Tout ça, c'est pas forcément convergent. Ça peut même être très contradictoire. Ça peut même être en conflit, mais déjà, si c'est en conflit, c'est déjà que c'est travaillé. Donc, quand on est en classe avec tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait souvent des choses qui sont pas cohérentes, mais c'est normal qu'elles soient pas cohérentes. Parce qu'il y a ce que je dis que je veux faire, et puis quand je gère dans l'instant, eh ben là, le truc que j'avais bien profond, là, c'est celui-là qui ressort. Et donc, là, je crois que c'est important de le poser tranquillement. Pas en termes de ça c'est bien, ça c'est mal. Mais si on fait ça, je fais ça. Mais du coup, je fais pas ça. Mais c'est normal. Enfin, je veux dire qu'à un moment donné, on a mis l'accent sur la planification et les enjeux parce que c'était pas travaillé. Du coup, on a oublié les formulations. Ça veut pas dire qu'aujourd'hui, si on revient sur les formulations, on y revient comme en 1925. Ça veut dire que ben, on est nourri aussi de notre histoire. Mais cette dimension aussi historique, elle est, me semble-t-il, importante si on veut prendre en compte la complexité de l'acte d'enseignement. Et si on veut aussi pouvoir répondre aux parents, et si on veut aussi pouvoir parler avec ses collègues de ces choses-là. Parce qu'on parle souvent de beaucoup d'autres choses que de ces choses-là. Voilà. Donc, je ne crois pas qu'on refasse les exercices structuraux.
Je me suis mal exprimée. Ce n'était pas le jeune ouvrier dont je faisais référence. C'était un petit livre qui existait très longtemps, qui s'appelait des exercices structuraux à l'oral. Il n'y avait pas de lien avec l'écrit.
Voilà.
C'est un petit livre qui s'appelait comme ça, des exercices.
Oui, mais alors avec le fait qu'à l'oral, à l'époque, la description de l'oral, elle était faite hein, chez les linguistes, mais elle n'était pas du tout diffusée. Et du coup, on faisait à l'oral de l'écrit. Oui, ce qui est très bien, hein, parce que... Hein, parler comme un livre, c'est bien. Bon, mais je pense qu'aujourd'hui, travailler sur qu'est-ce qui... Enfin, l'écart oral-écrit, alors ça... Aucun manuel ne le traite, alors que c'est assez central. Et qu'on voit très bien que des élèves de... Là, j'ai vu une PE de vendredi dernier dans une classe de CE2 qui, visiblement, n'avait jamais écrit. Ou très peu. Enfin, c'était effroyable, d'ailleurs, parce qu'il y avait aussi des affichages au mur qui dataient de plusieurs campagnes, visiblement. Bon, mais j'ai vu un truc que j'avais jamais vu en CE2. C'est-à-dire des élèves de CE2 qui n'avaient pas conscience de la différence écrit-orale dans ce qu'ils écrivaient. Et pourtant, la PE2, elle avait démarré sur la reformulation écrite d'un chapitre de livre qu'elle avait lu. Hein. Donc, on était vraiment sur une tâche minimale. Et j'ai vu des choses que habituellement on voit encore en CE1, mais qu'on voit plus en CE2. Et là, visiblement, le travail sur oral-écrit, il n'avait pas été vraiment travaillé pour cette cohorte d'élèves, quoi. Enfin, du moins pour certains d'entre eux. Alors, mais en même temps, oral écrit, ce qui est central, tout le monde se plaint qu'ils écrivent comme ils parlent, mais personne n'a travaillé sur comment on peut faire en sorte que des structures orales restent orales et que des structures écrites soient écrites.
Oui, mais là, ça, avec des PE, il y a une vraie résistance sur l'idée, pas que des PE, des instituts en poste aussi, qu'il y aurait une syntaxe de l'oral.
Ah oui, mais ça c'est dans les normes et les représentations.
Notre, je crois que Nicolas, tu veux...
Alors, un des aspects qui m'a paru le plus intéressant, c'était cette dimension que vous appeliez épilinguistique. Moi, c'est un terme que je ne connaissais pas. Éventuellement, si vous pouviez peut-être le redéfinir plus précisément, ça m'intéresserait. J'ai cru comprendre que c'était un travail qui consistait à mettre les élèves en contact avec des textes à lire dans lesquels ils pouvaient trouver des structures linguistiques qu'ils allaient pouvoir réemployer sans faire le passage par un métalangage grammatical qui risquait de faire écran plutôt que d'être inducteur ou facilitateur. C'est comme ça que j'ai compris les choses, je devrais en être sûr. En tout cas, ça m'a fait penser à un logiciel qui date d'il y a une dizaine d'années et qui est absolument, me semble-t-il, sur cette idée-là et qui a été élaboré à l'UFM de Créteil, donc vers l'an 2000, j'ai plus la date exacte, par une équipe autour de Jacques Rinon et Sylvie Plane et qui s'appelle « Écrire en lisant des récits de vie ». Le principe du logiciel étant de donner des consignes d'écriture inductrices de type récit de vie. Une chose qui avait, par exemple, que j'ai retenue parce que ça avait beaucoup choqué un de mes stagiaires, c'est raconter sa plus grosse bêtise. Alors, une stagiaire que ça heurta énormément comme idée de production écrite, elle trouvait ça parfaitement immoral. Toujours est-il que par rapport à un sujet et des caractéristiques de l'écrit à produire, par exemple l'emploi d'un passé simple, imparfait ou de telle ou telle focalisation. Le logiciel comporte donc non seulement tous ces sujets d'écriture, mais aussi toute une bibliothèque, comme on dit dans ce domaine des CD-ROM, de textes qui sont indexés avec les caractéristiques d'écriture que par ailleurs on est susceptible de demander d'employer aux élèves. Et donc là, il me semble qu'on a une illustration, vous me le confirmerez, de ce que vous appeliez épilinguistique, si j'ai bien compris.
Alors oui, c'est le travail de Jacques Rinon, Brigitte Marin aussi, sur lequel ils ont fait plusieurs publications, qui consiste à proposer des banques de textes. Alors moi, je vois ça plutôt du côté des aides à l'écriture, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des ressources qui sont données aux élèves et ils ont analysé, que ce soit en français langue première ou avec des enfants africains, hein, en quoi ces banques de textes pouvaient les aider. Alors en fait, épilinguistique, c'est plus large que la définition que vous en donnez, puisque, déjà, on parle largement de conscience métalinguistique pour référer à toutes ces activités où l'enfant va prendre la langue comme objet d'analyse et non pas comme moyen de communication. Habituellement, hein, quand on utilise la langue, c'est pour communiquer. Donc la langue sert à communiquer et construire une posture métalinguistique, ça va être se mettre à distance par rapport au fonctionnement de la langue. Bon, l'exemple que je prends souvent, c'est le chien, en grammaire, c'est un groupe nominal et ça n'est plus un animal à quatre pattes. Ça, c'est la conscience métalinguistique au sens large. Si vous voulez voir la somme sur la question, c'est un ouvrage de Jean-Émile Gombert qui s'appelle « Le métalinguistique » ou « L'activité métalinguistique ». Bon. Pardon ? Voilà, la construction des savoirs métalinguistiques. Merci. Donc, cette posture par rapport à la langue, elle peut se manifester de deux manières. Elle peut se manifester, comme on le voit classiquement, par une activité métalinguistique au sens strict, avec donc un métalangage, ça c'est un sujet, ça c'est un verbe, etc. Mais elle peut se manifester aussi par une attention à la langue qui est d'ordre épilinguistique. Et par exemple, quand à l'école maternelle, on travaille sur la collection des mots où j'entends pas, je suis dans une activité épilinguistique, c'est-à-dire que j'attire l'attention de l'enfant sur la dimension fonctionnement de la langue, bon là, ici la dimension phonologique, mais je ne lui dis pas « attention, on est en train de travailler sur la syllabe, on est en train de travailler sur le phonème ». Donc en fait, est épilinguistique toute activité qui amène l'enfant à regarder le fonctionnement de la langue sans forcément le nommer. Donc on peut entrer dans ces activités, les activités que j'ai données, donc d'imitation de structures syntaxiques, mais aussi tout ce qui porte sur le fonctionnement de la langue à l'école maternelle, par exemple, hein, que ce soit les mots où j'entends haut, tout ça c'est des activités épilinguistiques. Donc la définition est un tout petit peu plus large que cette reformulation. Et donc nous, on l'a appelé aussi pratique contrôlée de la langue, parce que si vous dites, ben, vous allez pratiquer, vous allez faire un texte où tous les mots auront un A, hein, voilà, c'est pas la peine de dire c'est les valeurs du A ou de la lettre A, c'est une consigne qui a une dimension épilinguistique, c'est-à-dire on abandonne, enfin, provisoirement la dimension d'abord communicationnelle pour se focaliser sur le fonctionnement de la langue. Autrement dit, on fait souvent de l'épilinguistique sans le savoir et sans le nommer. Sachant que épi et méta sont deux préfixes qui veulent dire tous les deux à propos de sur.
Je voulais revenir sur une dimension sur laquelle vous avez insisté, qui est liée à la production d'écrit, c'est celle du temps dans l'activité de classe. Et actuellement, on a beaucoup changé à ce niveau-là depuis 2 ans sur le terrain parce qu'on n'a plus que 4 jours, 24 heures. Et c'est un drame pour les enseignants. Et moi, je prends beaucoup appui en tant que formateur sur ce drame-là parce que c'est du coup un argument de poids intéressant pour leur dire justement lundi conjugaison, enfin lundi vocabulaire, mardi et grammaire, voilà, je peux plus, c'est plus possible, ça rentre plus. Quand est-ce que je fais le reste ? Du coup, c'est un argument très intéressant pour défendre justement les croisements, les interdisciplinarités, si je peux me permettre ce vocable-là, pour permettre aux enseignants de dire, eh ben, quand je suis en sciences et que je travaille les écrits, si j'ai anticipé effectivement mes apprentissages, mes attentes et ma mise en situation, je suis vraiment dans une activité d'écrit. Et ce qui va se passer là, ça sera autant de choses que je pourrais peut-être sur lesquels je pourrais prendre appui, faire relais. Et puis, justement, par rapport à ce qui a été évoqué, moi, j'ai des souvenirs de textes littéraires, des pans entiers. Je viens de me rendre compte que ce n'est pas de la poésie. Je ne savais plus pourquoi. Je pense que j'ai subi, effectivement, la reconstitution de texte, mais je ne savais plus pourquoi. J'ai l'image de mon enseignant avec la phrase de morale au tableau, mais pas avec le texte et l'éponge qui passe dessus. Mais justement, je viens de me rendre compte que c'est encore un point supplémentaire, parce que certainement qu'on garde du texte, on garde du patrimoine culturel, littéraire qui sert, et du coup, on est aussi sur une mémorisation, peut-être lexicale, sûrement de structure. Donc voilà, moi, en tant que formation, je pense que ça aussi, c'est un point d'appui important, parce que les enseignants sont en difficulté réelle et qu'ils ont besoin que les formations leur permettent de se rassurer, bien évidemment, leur donner des éléments, mais aussi apporter un peu des solutions, quoi, vivables. Il faut rester vivant actuellement dans une classe, hein. Moi, je leur dis toujours ça. Le but, c'est ça. T1, T2 ou confirmé, actuellement, il faut rester vivant.
Oui, alors je crois que les situations brèves, enfin, moi, je pense à une collègue de CP qui, au retour de la piscine, leur fait écrire une phrase. Alors, un jour, c'est... j'aime faire ceci, je n'aime pas faire cela. Une autre fois, c'est aujourd'hui, j'ai appris ça. Et c'est court et c'est une manière aussi de ponctuer l'activité piscine. Bon. Ensuite, quelle est la mémoire des textes, effectivement, qu'on a et des souvenirs scolaires qui y sont liés? Je pense que c'est ambivalent, contradictoire, etc. Et par rapport à ça, je pense qu'on le mesure aussi avec littérature de jeunesse. Le fait qu'il y ait une option littérature de jeunesse au concours actuellement. Plus pour longtemps, fait que on a très clairement en PE2 deux profils. On a ceux qui ont fait l'option littérature jeunesse et qui en ont lu et qui ont toute une bibliothèque vivante de textes et de références. Alors, ils sont pas forcément... Alors, justement, celle que j'ai vue l'autre jour, c'était catastrophique. Et en même temps, elle me dit, mais tout ce que j'ai appris l'an dernier, mais je n'arrive pas à le mettre en œuvre. J'y arrive pas. C'est-à-dire qu'elle a récupéré... Alors, elle a tout ça comme un patrimoine. Hein, qui fait que du coup elle choisit quelque chose de plutôt intéressant, mais ce qui ressurgit, c'est sa vieille, ses vieux souvenirs scolaires d'élèves où on lisait les chapitres un à un à haute voix, enfin c'est pas ce qu'elle avait fait tout à fait quand même, enfin voilà. Donc là il y a des contradictions, et puis il y a ceux qui arrivent en PE2 sans avoir tout ça et qui au début, alors moi j'ai fait un petit rituel dans mon cours de PE2, c'est on commence l'heure par enfin chaque séance par se conseiller ou se déconseiller un ouvrage de littérature de jeunesse ou pédagogique. Alors au début, ceux qui passent, c'est ceux qui ont fait l'option, et puis petit à petit, il y en a d'autres qui arrivent et qui s'y mettent, mais je crois qu'effectivement quelle est quelles sont les ressources qu'on a et quel est son propre rapport à l'écriture aussi, ça c'est encore autre chose. Et pour avoir vécu des ateliers d'écriture aussi en milieu, à la bibliothèque de ma commune, on voit aussi qu'il y a des enseignants, alors en particulier des enseignants à la retraite qui viennent dans ces ateliers, qui ont une conception hyper normative du beau texte. Alors là, je rejoins Jean-Luc, c'est effroyable. Et alors j'ai vu Jean-Luc, c'est Mauvignier, renverser ça dans un atelier d'écriture, et ça a été rude, hein. Le monsieur, il a résisté beaucoup parce que bien écrire pour lui c'était quand même tout le modèle 19e siècle, et puis Mauvignier là était en train de dire que c'était pas tout, enfin de l'obliger à faire autre chose, et à la fin il l'a remercié, c'est-à-dire là il a compris ce qu'était l'écriture. Alors bon, en même temps ça c'est un travail long, hein, mais je pense que c'est quand même aussi, quel est le rapport personnel qu'on a à ses propres souvenirs scolaires d'écriture, et quelles sont les ressources qu'on a à la fois de textes lus et de pratiques. Alors ça demanderait beaucoup de temps de formation qu'on n'a pas non plus.
C'est juste une remarque concernant Rémi et sa mobilisation du lexique de l'alimentation. Donc, cet enfant prouve qu'il a un lexique actif, relativement riche dans les productions de phrases. Il connaît tous ces mots. Par contre, quand on lui demande d'écrire un texte narratif avec une consigne qui implicitement suppose la mobilisation de ce lexique, il ne le fait pas. Alors, ensuite, il y a, semble-t-il, une semaine, c'est ça, de conditionnement.
Déjà.
Non, mais je fais exprès de dire ça. Non, parce que la question que je me pose, c'est justement qu'est-ce qui manque en termes de compétences, qu'est-ce qui manque à Rémi pour qu'ils produisent un texte narratif qui ressemble à un texte narratif séduisant avec la mobilisation d'un vocabulaire qui correspond à la situation. Et justement, il ne lui manque pas de connaissances lexicales. Alors qu'est-ce qui lui manque ? Que lui donne la semaine de conditionnement qui va faire qu'au bout d'une semaine, il va mobiliser ce vocabulaire ? Là, qu'est-ce qu'il a gagné au bout d'une semaine ? Sinon, il n'a rien gagné en termes de vocabulaire, il l'avait avant.
Ah non, ici, il en a gagné quand même.
Bon, quelques-uns de plus. Quelques-uns de plus, ok. Quelques-uns de. Non, j'ai une mauvaise foi, mais quelques-uns de plus, d'accord. Mais est-ce que son problème, ce qu'il n'avait pas quand on lui a demandé de produire le texte la première fois, est-ce que ce n'était pas seulement une représentation de ce que pouvait être un texte qui raconte une histoire avec des personnages, un texte séduisant, un texte intéressant. Est-ce que ce n'est pas seulement ça qui lui manque ? Et donc la réponse que construit l'enseignant en faisant mobiliser, comme tu l'as dit rapidement, je pense que c'était ça, en faisant mobiliser de manière assez régulière, sous forme d'activités décrochées, un vocabulaire qu'il avait déjà donc en grande partie, est-ce que c'est vraiment une construction d'une capacité à produire des textes qui s'est faite pendant la semaine, ou est-ce que c'est une construction de la capacité à mobiliser des exercices ? C'est un peu flou dans mon esprit, hein, mais c'est quelque chose comme ça.
La question du conditionnement, enfin en tout cas de l'effet court terme et long terme, elle est réelle. Deuxièmement, le travail n'est pas un travail d'exercice. Le travail consiste d'une part à par une activité ritualisée, faire que on se dise oralement tous ces mots du domaine potentiellement. Enfin, donc de mobiliser, moi je dirais mobiliser des ressources. La compétence, c'est que les connaissances, il les avait peut-être. Si on dit la compétence, c'est répondre à un ensemble de situations en mobilisant des connaissances, et qu'on dit il y a la question des connaissances, mais il y a aussi la question de la mobilisation, sans doute qu'il a appris à mobiliser. Bon. Par ailleurs, il y a le travail central, parce que si c'était ça, si ce que tu dis c'est ça, les élèves qui n'ont rien fait, ils devraient avoir fait un meilleur texte la deuxième fois, ce qui n'est pas le cas, parce qu'ils ont tous été dans la même condition de faire deux fois des textes. Et on a regardé l'écart entre le texte 1 et le texte 2. Ceux qui ont fait la deuxième fois sans rien faire d'autre, ça n'a pas bougé de ce point de vue-là. Non, ça n'a pas bougé. Bon, par contre, alors lui, non seulement il y a eu cette mobilisation, mais il y a eu aussi un travail, alors qui était un travail, nous, qui était celui qu'on pensait intéressant, c'est-à-dire, ils avaient un ensemble d'une vingtaine de verbes, dont certains étaient connus, d'autres moins connus. Ils avaient en groupe de quatre à voir quels étaient les verbes qu'ils connaissaient pas, essayer d'en approcher la signification, vérifier la signification. Ils avaient ensuite à regrouper ces verbes. Ils avaient à regrouper ces verbes, sachant qu'il y a les critères de regroupement qui étaient variés, puisqu'il y avait des verbes qui correspondaient à des modes différents de déplacement, d'autres qui correspondaient au point qu'on atteignait. Enfin bon, le matériau, il était calculé pour ça. Et ensuite, donc, chaque groupe a fait une affiche, et puis du coup, il y a eu une mise en commun dans des diverses affiches du groupe. Donc du coup, on a recontextualisé tel verbe ou tel autre. Donc il y a vraiment une focalisation lexicale. Bon. Et ensuite, il y a eu une nouvelle écriture qui permettait de réutiliser ces verbes, mais qui aurait pu être là plus tard. Donc la question était plutôt, et pas comment j'apprends à écrire, mais moi il me semble il y a deux questions. C'est un, comment par rapport au lexique que je connais déjà, j'en élargis, je vois qu'il y a plus de mots disponibles que ceux que je connais déjà, mais aussi je pense qu'il y a une attention à dans un texte, il y a plusieurs mots qui peuvent être utilisés, et il y a un mot spécifique, ça, c'est sous-tendu par une théorie qui n'est pas forcément non plus, enfin qui peut être aussi mise en question. Hein. Mais je choisis un terme spécifique. C'est mieux de prendre un terme spécifique qu'un terme générique. Ce postulat, il y est. Hein. Bon. Après, il n'y a pas forcément le postulat le même que celui du 19e siècle, à savoir, il faut prendre le bon verbe dans telle bonne situation. Il y a peut-être quelque chose qui ressemble à ça quand même. Voilà. Donc là, moi, je crois que l'élève, surtout, il a appris, en termes d'attitude, qu'il faut choisir ses mots. Il faut mobiliser des ressources, et on lui a peut-être appris à mobiliser des ressources. La question qu'on se pose aussi, c'est si on fait ce travail-là sur les verbes de déplacement, Et puis après, sur par exemple le lexique des sentiments, est-ce que sur une autre question, l'enfant aura l'attention à aller chercher dans des outils de référence des termes ou se renvoyer à des textes? Parce que ce que vous avez dit aussi, c'est que quand vous travaillez sur les textes en reconstitution de textes, bon, qui étaient choisis pour ça, hein, enfin, en général, on les choisissait parce qu'il y avait des structures syntaxiques que les enfants n'utilisaient pas, ou on en retrouvait des traces, c'est-à-dire qu'il y a aussi des choses qui se passent comme ça, par l'imitation et la reprise. Mais en tout cas, c'est pas sous la, enfin, c'est sous la forme. Alors, tu peux l'appeler conditionnement, oui. Enfin, il y a quand même un élément sous-jacent. C'est, il vaut mieux utiliser des verbes spécifiques que des verbes génériques. Oui, ça, oui. Ça peut-être se questionner aussi, parce qu'on peut très bien écrire un beau texte littéraire avec des termes génériques, peut-être. Donc, c'est pas cette question-là qui est en jeu. Mais la question, je crois, c'est une attention aux mots. Voilà. Alors après, le second texte que produit Rémi, alors en termes de meilleur ou moins bon, il n'est pas forcément meilleur que le premier. Ça, c'est tout le travail de réécriture. Il est saturé, il est tellement saturé que ça en devient presque gênant. Mais est-ce que c'est pas aussi une étape d'appropriation que de saturer? Voilà.
Moi, je voulais poser une question subsidiaire par rapport à ça.
C'est la dernière.
Est-ce que Rémi n'a pas tout simplement pas compris qu'en fait, on lui demandait dans l'exercice, la tâche A, d'utiliser des mots différents que manger, d'autant que dans les quatre premières phrases qui lui sont données, le point de départ, il y a trois fois le mot manger.
Oui, mais alors, ça a été dit à l'oral dans la première consigne, et ça n'a pas été entendu par les enfants. Non, alors peut-être parce que ça n'a pas été dit de manière à ce que ça soit entendu, ça reste un élément. Hein. C'est aussi une question qu'on s'est posée, parce que c'était le cas dans tous les textes. Donc, est-ce que tu emploieras le plus de verbes différents? On ne leur a pas dit, tu emploieras le plus de verbes différents qui veulent dire manger. On leur avait dit, tu emploieras le plus de verbes différents. Et du coup, je ne sais pas. Parce qu'en même temps, il a mis apprécier le repas. Donc là, il a fait un effort. Ça, c'est sa première écriture. Là, il a fait un effort sur l'utilisation du verbe. Donc la consigne d'avoir des verbes un peu spécifiques, je crois qu'elle a été entendue. Mais après, elle a été perdue de vue parce que la tâche était aussi complexe, hein, je pense.